Je vois qu'on a pris l'habitude d'avoir un peu plus d'espace. Bon, pourtant, je suis heureuse de vous accueillir à nouveau dans la salle du conseil municipal, puisque ça fait quand même de nombreux mois que nous n'avions pu nous réunir au sein de cette salle. Et c'est même la première fois pour cette nouvelle mandature que nous réintégrons donc la salle du conseil municipal. Donc le conseil municipal reste ouvert au public. Je rappelle que la séance est retransmise en direct via Facebook Live, à suivre sur la page Facebook officielle Ville de Pontivy. Et donc j'en profite pour saluer tous les internautes pontiviens qui nous suivent. Je vais donc faire l'appel. La séance est donc ouverte. Donc Christine Lestrade, donc Michel Jarnigon,
présent.
Alexandra Leny,
présent.
Paul Le Guernic,
présent.
Véronique Delmouly,
présent.
François-Denis Mouaou,
présent.
Julie Mingan,
présent.
Georges-Yves Guillot est absent, il a donné pouvoir à Michel Jarnigon. Annie Guillemot,
présent.
Jean-Pierre Leclinche, Claudine Rowe,
présent.
Maxime Lelu,
présent.
Florent Jean, Philippe Amourette, Emmanuel Le Brigand, Michel Guillemot, Meltide Le Prévost est absente, elle a donné pouvoir à Annie Guillemot, Benoît Jacques,
présent.
Nathalie Guillemot, elle n'est pas arrivée, je pense.
5 minutes de retard.
Ah oui, d'accord, merci. Hervé Gestin,
présent.
Marie-Vonne Le Tutour, Alain Pierre est excusé et a donné pouvoir à Hervé Gestin, Gabriel Lebris,
présent.
Alice Conan,
présent.
Éric Guillermic,
présent.
Marie-Madeleine Doré-Lucas,
présent.
Christophe Marchand,
présent.
Marie-Christine Lemoel nous suit en visioconférence. Donc, bonsoir Marie-Christine, vous êtes bien en ligne? Ah. Donc vous nous informerez quand elle sera présente. Yvonique, merci. Daniel Illion. Donc Gaëlle Leroc est absente et elle a donné pouvoir à Jean-Jacques Mercer. Jean-Jacques Mercer.
Présent.
Et Nathalie Tomaszewski. Bien, je vous fais part aussi donc de la démission reçue le 18 octobre. De Véronique Carré. Donc les délais contraints pour l'envoi des convocations au conseil municipal de l'ordre du jour et puis en attente donc du retour de la personne appelée à la remplacer, nous n'avons pu transmettre la délibération donc pour l'installation du nouveau conseiller municipal aujourd'hui. Donc cette installation sera reportée au conseil municipal donc de décembre. Véronique sera remplacée par Philippe Leruyette. Voilà, je vais vous transmettre la feuille d'émargement donc pour signer. N'oubliez pas que nous en avons une autre en fin de conseil municipal. Et je vous propose donc de désigner un secrétaire ou une secrétaire de séance. Je propose Alice qui est la plus jeune. Merci, merci Alice. Et puis ben, je vous propose de prendre tout de suite notre ordre du jour. Et nous commençons par la commission du personnel. Et je laisse la parole à Michel Jarnigon.
Bon, bonsoir à tous. Donc, commission du personnel avec, bien entendu, comme habituellement, le comité technique paritaire, le CHSCT, qui vont de pair. Donc, réunion du 28 septembre et du 6 octobre. Nous avons deux délibérations qui en une concernant la définition des lignes directrices de gestion et l'autre la mise à jour du tableau des emplois, qui sont des délibérations habituelles, qui ont été votées à l'unanimité aussi bien par le collège personnel et le collège employeur lors du CTP. Les autres points qui étaient à l'ordre du jour concernent l'organisation de services et notamment la réorganisation et la méthodologie et le calendrier de la réorganisation de la direction des ressources humaines. Donc, DGS a informé les membres de la commission du personnel du CTP, du CHSCT, des principaux objectifs de la réorganisation et de la méthode appliquée. Il a précisé ont été les premiers éléments de la concertation. Dès lors que le cadre de la réorganisation sera posé, ça avance en ce moment. Le CDG 56, par le biais de l'auteur du rapport et de la psychologue du travail, sera associé à la démarche de présentation auprès des agents. Il a précisé que l'effectif au service en temps normal est de 4 agents correspondant à 3,7 équivalents temps plein et que l'augmentation de la quotité de travail de 0,3, c'est-à-dire de passer à 4 pour 4, serait de nature à faciliter la répartition des missions. Le dernier trimestre de l'année doit constituer un temps de validation de la nouvelle organisation de façon à ce qu'on soit bien organisé ou réorganisé pour le 1er janvier. Il y a eu aussi un mot sur tout ce qui touche les risques psychosociaux. Donc, document de présentation aux agents, le 7 octobre, il y avait à peu près une bonne quarantaine, cinquantaine d'agents qui ont participé aux deux réunions. Il y a 5 fiches actions qui sont mises en place. Le point C, c'est le dispositif de signalement d'actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissement sexiste. L'élaboration d'une procédure. Donc, il a été proposé aux membres du CHSCT de travailler à l'élaboration d'une procédure de signalement. Il est prévu la réunion d'un groupe de travail composé des membres du CHSCT, d'élus et du médecin de prévention. Il pourra utilement consulter le guide et les modèles de courrier qui sont mis à disposition des collectivités par le CDG de la Petite Couronne d'Île-de-France. Il y avait un document. Et la psychologue du CDG 56 nous a informé que le CDG 56 est en train d'étudier la possibilité d'un conventionnement avec l'association France Victimes pour le début de l'année 2022, auquel cas on pourrait bien entendu en tant que collectivité se raccrocher à ce dispositif. Le pass sanitaire et l'obligation vaccinale, bon là tout le monde suit un peu l'actualité, il n'y a rien de particulier. Le déménagement du CCAS, on en avait déjà parlé. Puisque le CCAS sera prochainement, Rugeonneau. Donc voilà ce qui avait été à l'ordre du jour à la fois de la commission du personnel, du CTP et du CHSCT, qui entraîne donc deux délibérations. La première délibération, c'est l'établissement des lignes directrices de gestion. Donc les lignes directrices de gestion en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels. Donc vous avez dû lire les grands chapitres. Ce qu'il faut retenir, c'est que nous, bien entendu, en ce qui nous concerne, la collectivité, on est rattaché au dispositif, on est affilié au centre de gestion. Donc ce qui est le cas pour la ville et le CCAL, c'est les critères de promotion interne restent de la compétence exclusive de celui-ci. En l'espèce, la commune et le CCAS n'ont donc pas à établir de ligne directrice de gestion, mais elles doivent définir des critères internes pour sélectionner les dossiers de promotion interne et à déposer auprès du centre de gestion. Donc les critères internes, c'est celles en fait. On n'y a pas touché, on a décidé qu'on allait y réfléchir ou y travailler à partir de l'année 2022 pour voir si on avait des choses à retoquer ou à améliorer. Pour l'instant, on est sur des lignes directrices de gestion qui datent en fait de 2009 et de 2007, de 2007 pour la ville et de 2009 pour le CCAS. Donc il a été décidé de suivre ces lignes de directrices de gestion pour cette année et de travailler à l'élaboration ou travailler sur ces lignes de directrices de gestion pour voir pour 2022. Donc c'est pour ça que vous avez lu donc la délibération. Après avis favorable du CTP du 6 octobre 2021, nous vous proposons d'adopter pour l'année 2021 les lignes directrices de gestion en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels telles que définies ci-dessus pour l'année 2021 et de prévoir une nouvelle délibération pour l'adaptation de celle-ci pour les 5 prochaines années. Auquel cas, on travaillera dessus pour 2022. Est-ce que sur cette délibération, vous avez des questions ?
Bien, s'il n'y a pas de questions, je vais vous proposer cette délibération sur l'établissement des lignes directrices de gestion en matière de promotion et de valorisation du parcours professionnel au vote. Y a-t-il des votes contre ? Y a-t-il des abstentions ? Je vous remercie. La délibération.
Faut
ah, mais oui. Je suis désolée, j'ai du mal à changer les habitudes.
Moi, ouais, ça tourne en bon, ça tourne.
Il n'y a pas assez de débit, on peut pas.
Il n'y a pas assez de débit.
On va voter normalement.
Bon, alors donc je répète mes questions, du coup. Oui. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Donc la délibération est adoptée. Je vous remercie. Nous passons donc à la suivante.
Alors, c'est la mise à jour du tableau des emplois au 1er novembre. Donc ça, c'est aussi quelque chose de classique qu'on a régulièrement. Afin de tenir compte des besoins en personnel, des recrutements, des départs et des promotions, et après avis favorable du comité technique paritaire du 6 octobre 2021, il est proposé des modifications suivantes. Au service administratif, création d'un poste de rédacteur principal de deuxième classe à temps non complet à 70%. L'espace généré, transformation d'un poste adjoint du patrimoine en poste d'adjoint du patrimoine principal de première classe. Les écoles, deux transformations, une transformation d'un poste d'adjoint technique en poste d'adjoint technique principal de deuxième classe et transformation de deux postes d'adjoint technique principal de deuxième classe en deux postes d'adjoint technique principal de première classe. Pour le CTM, transformation d'un poste de technicien principal de deuxième classe en un poste de technicien principal de première classe. Également un poste d'adjoint administratif principal de deuxième classe en première. La voirie, un poste d'adjoint technique en poste d'adjoint technique principal de deuxième classe. Et au bâtiment, la transformation d'un poste d'adjoint technique principal de deuxième classe en poste d'adjoint. En fait, vous avez ça dans les tableaux suivants, c'est ce qui normalement sur votre tablette a dû être surligné en jaune, le personnel qui comment dirais-je, montait en grade le plus souvent où il avait été recruté. Donc je vous propose d'émettre un avis favorable aux modifications du tableau des emplois et d'accorder aux agents concernés le régime des primes votées par le conseil municipal qui vont avec. Est-ce que vous avez des questions ?
Pas de questions, donc je vous soumets la délibération au vote. Y a-t-il des votes contre? Abstention. Donc la délibération est adoptée. Je vous remercie. Merci Michel pour ce chapitre. Et nous passons tout de suite à la commission. Ah oui, pardon Marie-Madeleine.
Oui, merci. C'est pas pour... Je suis pour, évidemment, puisque j'ai assisté aussi à cette commission personnelle et j'avais fait part de mes observations que je retrouve dans le compte rendu, donc il n'y a aucun souci. Ma question est autre. Je me posais la question par rapport au tableau des emplois. S'agissant des cadres territoriaux, est-ce que dans les missions de ces cadres territoriaux, notamment catégorie A, s'agissant de la fiche de poste, y a-t-il des missions secondaires qui figurent, consistant dans le fait d'être présent lors de manifestations de certains agents territoriaux, ces cadres étant présents, non pas pour manifester, mais pour y assister tout simplement. Je le dis parce qu'il y a eu des rumeurs qui ont... Alors une rumeur est une rumeur, hein, évidemment, hein, mais des rumeurs sur les réseaux sociaux dénonçant quelque peu cet état. Donc je posais la question tout simplement.
Alors rappeler, dénonçant quoi exactement Marie-Madeleine?
Ben, le fait que certains cadres territoriaux ne seraient pas présents pour le jour J des manifestations pour manifester, mais pour être là pour voir qui, s'agissant des cadres territoriaux, des agents territoriaux, que dis-je, de la ville, qui est là pour manifester ou pas.
Des interdictions de participer à des manifestations.
Non, pas des interdictions. C'est une présence de certains cadres territoriaux lors de manifestations d'agents territoriaux.
Alors, à ma connaissance, je n'en ai pas l'information. Donc,
c'est pas que
c'est quelque chose qui serait inscrit sur la fiche de poste de l'agent. Vous
non, c'est une question que je pose quant à savoir, s'agissant de la fiche de poste, étant donné qu'il y a des missions principales. Il y a aussi des missions secondaires. Oui. Est-ce que s'agissant de ces missions secondaires, il y a ou peut-on trouver des choses ayant trait à la question que je pose à l'instant?
Vous avez des postes en particulier, cadre A, vous dites? Bon, moi je n'ai pas, sincèrement Marie-Madeleine, je n'ai pas connaissance de cela. Maintenant, il faudrait reprendre... Ah oui, je n'avais pas laissé.
Non mais voilà, moi je pose la question, je ne suis pas là pour faire la délation,
oui,
suite à des rumeurs voilà, qui ont pu circuler sur certains réseaux sociaux. Une rumeur est une rumeur.
Oui, absolument, mais bon, je n'en ai pas connaissance, hein, je vous assure, et donc la demande n'a pas été faite de notre part, quoi qu'il en soit.
Bon.
Ou alors ce serait resté sur une fiche de poste existante auparavant.
Ça n'a pas figuré sur une fiche de poste de toute manière, non. Puisque la liberté d'expression et le statut de la fonction publique confèrent des droits aux agents, et en l'espèce, ces droits figurent, et même en tant que citoyen, ce sont des droits dont disposent les agents de faire grève si voilà, ils estiment qu'ils ont besoin de faire grève et de manifester. Putain, il sentait mal le Bélanger là.
Non, donc je vous confirme que je n'ai jamais demandé à qui que ce soit de vérifier. De toute façon, je pense que l'information, elle passe au niveau du service des ressources humaines, mais jamais je n'ai vérifié qui était en grève, et jamais nous n'avons donné d'ordre pour le faire. Voilà, Marie-Madeleine. Et que nous respectons les droits de tous les agents sans problème. Voilà, bien, je vous propose donc de passer au chapitre suivant, et je donne tout de suite la parole à François-Denis Mouaou.
Merci Madame la Maire, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. La Commission de transition écologique, urbanisme et mobilité vous propose 4 projets de délibération. Donc 2 projets pour le Talin, qui est une bonne chose, une convention de servitude Enedis, qui est donc une régularisation, et puis un projet de délibération sur le concours des maisons fleuries. Et vous avez aussi dans vos tablettes un compte rendu plutôt à un point précis sur le lancement d'une procédure de déclaration d'abandon manifeste concernant la propriété bâtie de M. Robert Jouan, donc au numéro 10 du général de Gaulle, dont vous avez sur la tablette le plan. Alors, M. Robert Jouan est propriétaire de l'immeuble bâti donc au numéro 10 de la rue du général de Gaulle. Donc l'immeuble est vide de toute occupation depuis plusieurs années et ne fait l'objet d'aucune mesure d'entretien de son propriétaire. Et vous avez après une litanie, si vous voulez, de procédures, hein, donc le formalisme procédurier dans ce genre de problématique. Et donc, en absence de réaction du propriétaire dans les 2 mois suivant la notification de l'arrêt du péril imminent, la commune de Pontivy a pris les mesures conservatoires requises, donc nettoyage du terrain, obturation des ouvertures, et puis pour en interdire l'accès au public. Sachant que sur ce périmètre, en fait, il y a un projet aussi qui est porté par Nexity, qui veut aussi, si vous voulez, récupérer, plutôt être propriétaire sur ce terrain-là. Donc c'est une occasion aussi pour la mairie de Pontivy de voir comment on pourra valoriser ce coin au rond-point de la route qui va sur à l'Oudéac. Alors, la procédure de déclaration d'abandon manifeste, il y a deux phases là-dessus. Il y a une procédure de déclaration d'abandon manifeste, puis une procédure d'expropriation simplifiée. Là, c'est pareil, vous avez donc sur la tablette, on explique bien sur le lancement, donc la post-déclaration d'abandon manifeste, vous avez donc le lancement. Il y a aussi un délai d'action du propriétaire pour répondre justement aux sommations qui seront faites. La déclaration d'abandon, la procédure d'expropriation simplifiée, là aussi c'est expliqué. Et à l'issue donc de toute cette démarche, donc au terme de l'expropriation, au terme de la procédure d'expropriation, la commune cédera donc à Nexity le bien au prix fixé par la réalisation du projet. Donc voilà, concernant ce point-là, est-ce que vous avez des éclaircissements que je puisse apporter ou les autres membres de la commission peuvent compléter aussi?
Oui, monsieur Mercer.
Un succès.
Bien. Non, simplement, j'ai effectivement assisté à cette commission, hein, très et très bien menée. La remarque que je faisais, c'est de bien vérifier que la personne propriétaire était en capacité de répondre à nos sollicitations. Donc voilà, j'en dirai pas plus, mais je pense que pour la rigueur de la procédure, il est important de vérifier cela.
Nous avons déjà vérifié si la personne était accompagnée dans la gestion de ses affaires. Donc voilà, nous l'avons vérifié effectivement.
Je vous en remercie.
Je poursuis, Madame la Maire.
Oui.
Vous avez aussi un point sur l'activité concernant le service d'urbanisme. Vous avez un petit tableau qui est là-dessus. Alors, ce qui semble être pertinent, c'est plutôt le nombre de permis de construire qui est en nette évolution. Et puis, vous avez aussi les déclarations d'intention d'aliéner. Voilà des lignes, à mon avis, qui sont significatives. Et donc, s'il n'y a pas de question là-dessus, on va passer aux délibérations. Donc, Talin Le Clos Manoir, annulation de la vente du terrain cadastré, donc BL numéro 395 à Madame Ghislaine Nedelec, et vente du terrain à Madame Molwen Mounion. Donc, par délibération en date du 16 novembre 2021, il était convenu de vendre à Madame Ghislaine Nedelec, demeurant 14 rue Mendès France, le lot numéro 11, cadastré BL numéro 395, d'une contenance de 640 mètres carrés au prix de 40 euros TTC le mètre carré, soit au prix global de 25 600 euros TTC. Il s'avère que Mme Mélouem Mouniot, fille de Mme Ghislaine Nedelec, demeurant 14 rue Mendès France, à Pontivy, a exprimé le souhait que le lot numéro 11 soit vendu, le lot numéro 10 devant être vendu à sa mère. Et vous avez donc sur la tablette le plan des lots qui seront vendus. Donc, nous vous proposons de ne pas donner suite à la vente du lot numéro 11, cadastré BL numéro 395, à Madame Ghislaine Nedelec, de vendre le lot numéro 11, cadastré BL numéro 395, à Madame Molwen Mouniot, d'autoriser Madame la maire à signer l'acte à intervenir.
Pas de questions.
Y a-t-il des votes contre ? Abstention. La délibération est adoptée. Merci. La suivante.
Et dans la suite, on a donc Madame.
Oui. Oui. Pardon. D'accord.
Et dans la suite, il y a donc Madame Ghislaine Nedelec, donc demeurant 14 rue Pierre Mendès, souhaite se porter acquéreur du lot numéro 10, cadastré BL, numéro 396, d'une contenance de 554 mètres carrés, au prix de 40 euros TTC le mètre carré, soit au prix global de 22 160 euros TTC. Nous vous proposons de vendre le lot suivisé à Madame Ghislaine Nedelec, d'autoriser Madame la maire à signer l'acte à intervenir.
Bon, il faudra compléter la délibération, c'est Pierre Mendès France.
Ah, d'accord.
Oui, Christophe, vous vouliez intervenir ?
Excusez-moi, j'interviens un petit peu à contre-temps. Je voulais revenir juste sur le 10 rue Gérald de Gaulle ou avenue Gérald de Gaulle. Donc, le point 5, en fait, suite au terme de l'expropriation, on peut lire donc au terme de la procédure d'expropriation, la commune cède à Nexity le bien au prix fixé pour la réalisation du projet. Bon, donc je n'ai pas assisté, moi, à la commission, je n'ai pas eu vent trop du projet. Bon, j'imagine qu'il y a quelque chose. Mais en fait, mon intervention, c'est pour savoir quel est le périmètre du projet de Nexity. Est-ce uniquement sur la maison exproprié, auquel cas je m'étonne, ou est-ce que c'est également, puisqu'on a sur la page suivante, page 35, on a un plan, également sur le parking qui se trouve à la gauche de la maison expropriée.
En fait, oui.
Oui, mais j'allais répondre. Le projet Next City, aujourd'hui, là où il n'est pas que sur cette maison-là. Il est sur plusieurs propriétés dans ce secteur-là.
Donc sur l'ancien garage qui se trouve donc juste au sud de la propriété.
Non, je ne crois pas que l'ancien garage soit, mais ils sont toujours en discussion avec plusieurs propriétaires dans le secteur.
D'accord. Ok, voilà. Merci.
Mais sachant que, quoi qu'il en soit, cette maison, vous savez, nous avions parler d'une opération de revitalisation foncière et que cette maison avait été de toute façon, si vous voulez, visée dans le cadre de cette opération de restauration foncière puisqu'elle faisait partie des bâtiments qui sont laissés à l'abandon et pour lesquels nous avons beaucoup de soucis, qui étaient retranscrits là dans cette note de la commission. Mais nous avons eu beaucoup de plaintes des riverains, des propriétaires alentours et puis des problèmes de sécurité. Même la maison a été squattée avec bien entendu des problèmes concernant le gaz, de la vermine. Enfin voilà, bon, c'est une maison qui posait beaucoup de soucis. Alors il se trouve qu'il y a ce projet qu'effectivement Next City, puisque c'est eux qui sont intéressés par cette maison, mais quoi qu'il en soit, nous allions l'intégrer dans l'ORI. Donc je reviens à la délibération présentée par François Denis pour la vente donc du lot numéro 10. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Donc la délibération est adoptée. Je vous remercie. Oui, on entend Marie-Christine. Alors pour le vote, je ne sais pas comment ça se passe du coup pour Marie-Christine. Je vous laisse voir avec elle. Bien, on continue. François Denis.
Passons donc à la convention de servitude d'Enedis, donc installation d'un poste de transformation électrique dans le secteur d'Estival. Donc le conseil municipal, par délibération numéro DEL de 2016-0104 du 27 septembre 2016, a autorisé Madame la maire à signer avec Enedis une convention de servitude pour l'installation d'un poste de transformation électrique sur la parcelle cadastrée section AB numéro 65 à Estival, au 16 rue Saint-Mériadec. Ces travaux ont été réalisés dans le cadre de l'amélioration de la qualité des dessertes et de l'alimentation du réseau électrique de distribution publique. Afin de régulariser administrativement et juridiquement la situation, Enedis a sollicité l'étude au notaire de la visitation de Rennes afin d'établir l'acte notarié portant sur cette servitude. Nous vous proposons d'autoriser Madame la maire à signer l'acte notarié.
Bien, pas de questions. Donc, y a-t-il des votes contre? Abstention. Délibération adoptée, merci.
Et enfin, une délibération, comme on le fait à chaque fois, en fait, chaque année, concernant le concours des maisons fleuries. Donc la ville a de nouveau organisé cette année un concours de maisons fleuries auquel 28 candidatures de jardins et parcs pontiviens ont été présentées. Selon les catégories, les premiers et deuxièmes prix se voient attribuer un prix en bon d'achat en jardinerie pour un montant à répartir s'élevant à 1 310 €. Les autres participants bénéficieront d'un bon d'achat de 10 euros, le montant à répartir étant de 150 €. Une enveloppe de 645 € est également réservée à l'achat de bouquets de fleurs qui seront offerts à tous les participants. Et vous avez sur la délibération les récipiendaires qui vont donc recevoir ces prix. Donc je vais passer simplement. Nous vous proposons donc d'accepter l'attribution des prix comme indiqué ci-dessus.
Bien, y a-t-il des questions? Donc y a-t-il des votes contre? Abstention. Délibération adoptée. Eh bien, merci François Denis pour cette présentation. Nous passons donc au chapitre des finances et je donne donc la parole à Véronique Delmouly.
Merci Madame la maire. Alors d'abord un compte-rendu de la commission finances. Donc je précise que Maxime était absent, mais excusez, c'est moi qui n'ai pas dû transmettre l'information. Donc un unique sujet sur cette commission, les tarifs 2022. Donc je vous rappelle que les services étaient amenés à a donné les augmentations pour l'année prochaine en fonction du taux d'inflation de l'INSEE, qui était plus élevé qu'habituellement, donc 1,5% en moyenne, même 1,9% pour certains, et avec les tarifs énergie qu'on connaît qui grimpent. Donc ça leur a permis d'ajuster les tarifs au plus près. Et en commission, nous avons travaillé sur les tarifs et nous avons vu un certain nombre de points. Vous avez les réponses sur le rapport, par exemple, concernant la cantine, le tarif le plus faible du repas à la cantine reste bien de 1 euro et c'est un choix de la mairie et pas une obligation réglementaire. Ou d'autres tarifs ont augmenté, mais c'était pour suivre le prix des prestations et on reste à prix coûtant, comme le régisseur pour les associations pontiviennes. Voilà, donc tous les tarifs sont décrits sur les pages 49 à 68 dans vos tablettes. Ce qu'il faut noter, c'est que les tarifs de médiathèque, comme ceux des spectacles, n'augmenteront pas. La cantine, restauration scolaire, CLSH, le centre de loisirs, augmente de 1,90% en moyenne. Et puis la plupart des autres tarifs augmentent de 1,5%, ce qui reste inférieur au taux d'inflation prévu par l'INSEE.
Avez-vous des questions ?
Oui, Daniel ?
Oui, page 51, ressources prises en compte. J'avais demandé à ce qu'on rectifie BIC et je souhaiterais que pour BNC ce soit pareil, on mette zéro si BIC est négatif. Si BNC est négatif, pardon.
D'accord. Ouais. Effectivement, ce n'était pas précisé zéro voilà. Si le BIC était négatif. On l'a ajouté, mais on peut l'ajouter pour le BNC. D'accord. Aussi.
Et je vois qu'on a pris de la promotion, on vous appelle les commissaires.
C'est joli, non ?
Oui.
Vous êtes assez commissaire en plus, hein, parfois. Donc la délibération, c'est que je vous propose d'adopter les tarifs communaux pour l'année 2022, suivant les tableaux annexés à la présente délibération.
Bien, y a-t-il des votes contre ? Abstention ? Donc, la délibération est adoptée. Je vous remercie. Donc, c'était la seule délibération, Véronique. Nous en avons donc terminé pour le chapitre des finances. Et nous passons tout de suite au devoir de mémoire. Et je donne la parole à Jean-Pierre Leclinche.
Donc, la commission devoir de mémoire s'est réunie le 7 octobre. Donc je vais vous faire une synthèse de ce qui a été dit durant cette et décidé durant cette commission. Donc la commission a réaffirmé une des priorités importantes de développer les actions en direction de la jeunesse. Le devoir de mémoire est un élément très important dans l'éducation à la citoyenneté et dans la transmission des valeurs de la République. C'est donc dans cette optique que Madame la maire a souhaité associer le devoir de mémoire à la délégation éducation enfance jeunesse. Donc la commission travaillera donc selon deux axes. Le premier, la mise en place de projets en direction de la jeunesse. Et le deuxième, apporter une plus grande solennité, un plus grand éclat aux cérémonies mémorielles, en particulier celles les plus emblématiques du 11 novembre, du 8 mai et du 14 juillet. Pour ce qui concerne les actions en direction de la jeunesse, donc remobiliser les référents devoirs de mémoire donc, qui existent dans chacun des établissements scolaires de la commune et qui sont le relais de la commission au sein des écoles, collèges et lycées pontiviens. D'autre part, mettre en place le projet Souvenirs de résistance dans les écoles élémentaires, donc qui consiste pour les enfants à faire un travail de recherche sur la biographie des personnes qui ont donné leur nom aux rues de Pontivy. Toujours pour les écoliers de CM2, reprise de la journée citoyenne en partenariat avec le Lyons Club. Pour les collèges, organisation d'un rallye citoyen pour les quatrièmes. Pour les collégiens et les lycéens, proposition d'organiser des conférences sur le thème de la résistance et de la Seconde Guerre mondiale avec des intervenants experts de cette période. Pour les lycéens, projection d'un film sur le devoir de mémoire, les héritiers. Et avec le lycée Lotte et Jeanne d'Arc, signature d'une convention pour la garde du drapeau FFI en présent et présence aux cérémonies du 11 novembre et du 8 mai. Pour rehausser les cérémonies mémorielles, un piquet d'honneur a été sollicité auprès de la délégation militaire départementale pour la cérémonie du 11 novembre. Pour celle du 8 mai, les écoliers ayant participé au projet Souvenirs de Résistants, ce qui fait à peu près 150 écoliers, voire 200, seront présents de manière active à la cérémonie. Pour le 14 juillet, nous souhaiterions organiser une cérémonie avec plus d'ampleur, éventuellement en organisant un défilé autour de la plaine, une levée des couleurs et un moment convivial avec une plus grande envergure. Donc, enfin, durant cette commission, nous avons également abordé le bilan de l'année 2021, très perturbé au niveau des cérémonies mémorielles du fait de la pandémie. Nous avons également finalisé le calendrier des cérémonies de 2022 et nous avons évoqué le 60e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie avec différentes pistes pour le célébrer.
Avez-vous des questions sur le travail de cette commission? Oui, Marie-Madeleine.
Oui, merci. Oui, ma question est la suivante. Où en est la demande de Monsieur Jarnot et concernant la nomination d'une rue au nom de Marcel Lecoq?
Alors là, ce n'est pas dans le cadre de cette commission-là, c'est dans le cadre de la dénomination des rues. Je pense que nous n'en avons pas eu...
Oui, Marie-Madeleine, on cherche à trouver une rue qui soit significative. Donc ça, on va le voir en commission. Ouais, d'accord. Je prends note. Ouais, je prends note.
Un petit moment maintenant que la demande avait été formulée.
Ouais. Faudrait-il encore trouver...
Oui, le tout est de trouver, trouver la rue qui correspond et nous ne dénommons pas des rues tout.
Bon, j'espère que ça se fera bientôt quand même. Voilà, d'autres questions? Bien, et bien, merci Jean-Pierre. Pour cet exposé de la commission. Et nous passons donc au compte rendu à la commission travaux, voirie. Et je donne la... Ah oui, commission accessibilité. Oui, j'avais besoin de mes lunettes. Donc Florence.
Bonjour à tous. Donc le 6 septembre 2021 a eu lieu la première commission extra-communale pour l'accessibilité des personnes handicapées. Dans un premier temps, nous avons présenté la délibération concernant la finalisation des mises aux normes en matière d'accessibilité des ERP communaux. Ensuite a été présenté l'état d'avancement du PAV avec un rappel sur les 5 trajets existants, le trajet commerce de proximité, le trajet service administratif, trajet établissement scolaire, trajet établissement culturel, et le trajet santé qui a été depuis modifié suite à la création du pôle médical et du laboratoire d'analyse médicale rue Diéna. Et ensuite, donc on a présenté un bilan d'accessibilité du réseau Pondibus. Au niveau des 4 véhicules, les 4 bus dont celui de réserve sont accessibles au PMR. Ils sont équipés d'une rampe d'accès PMR et ils possèdent chacun une place UFR. Alors UFR, hein, c'est utilisation fauteuil roulant, ça veut dire l'abréviation. De même, les véhicules du réseau Movitat sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. La péniche de l'Office du tourisme est également accessible au PMR. 37% des quais sont conformes à la législation. 5 quais sont en projet et sont éligibles à une subvention DSIL, c'est dotation de soutien à l'investissement public local. Donc ben, je vous lis, hein, Bâche, la ligne 3, Paul Valéry, Le Resto, Robert Le Calvé et Kerjalotte. Et nous avions une association qui était présente lors de cette commission, l'association Oreille et Vie, qui était représentée par Madame Guy Mojane. On nous a rappelé la réglementation concernant l'équipement des boucles magnétiques pour les malentendants dans les établissements recevant du public. Et elle a fait les remarques suivantes. Donc, les exploitants des établissements recevant du public peuvent aller au-delà de la réglementation. Celle-ci n'oblige pas les cabinets médicaux à se doter d'un tel équipement. L'achat de boucles magnétiques permet quand même de tranquilliser les patients. Il serait aussi utile d'acheter un testeur permettant de vérifier le bon fonctionnement des boucles magnétiques. C'est un coût estimé à 200 euros. En effet, celles de certains équipements seraient en dysfonctionnement. Concernant la réglementation incendie, des détecteurs de fumée sonore et visuelle existent à la vente. Les ascenseurs doivent être équipés d'un système sonore et visuel voyant lumineux indiquant l'étage ou l'arrivée. Au niveau des passages piétons équipés de feux, il serait utile de compléter l'installation des systèmes sonores. C'est déjà en place rue nationale et ça sera aussi dans le projet à venir. Dans les transports en commun, pardon, il conviendrait d'enregistrer un message d'annonce de l'arrêt sonore et visuel. Cette observation a été transmise à Pontivy Communauté. Une formation des agents d'accueil des ERP à l'accueil des personnes ayant un handicap serait à prévoir et elle est prévue. Il conviendrait de fournir des masques transparents pour faciliter la communication avec les personnes malentendantes et c'est en projet. Voilà, avez-vous des questions ?
Oui, Jean-Jacques.
Voilà, j'ai une petite remarque. Je me fais le porte-parole de Madame Gaëlle Leroc. Il ne trouve pas trace de la convocation à la commission accessibilité. Et je crois que Madame Marie-Christine Noël pourra peut-être nous le confirmer, n'a pas trace non plus de cette convocation. Et donc elles ont été notées absentes. Ne semble-t-il, n'ont pas été convoqués.
Bah, moi, pourtant, j'ai reçu la convocation, elles étaient dessus. Donc,
Alors, je me fais le porte-parole, donc oui. Mais à vérifier simplement, et ceci excuserait son absence, ainsi que celle de Mme Lemoyne. Et la deuxième, alors, c'était une question ou une intervention, c'était. Alors, c'est entre les travaux et la commission accessibilité. On nous a fait la remarque de l'accessibilité dans la rue nationale pendant les travaux. Les fauteuils roulants, les PMR ont véritablement peur de s'y engager. Donc je pense qu'il faudra peut-être réfléchir à cette question-là.
La problématique demeure dans l'ensemble des travaux, c'est toujours compliqué. Alors on parle des PMR, on a la même problématique pour les personnes malvoyantes. Hein. On sait que c'est une grande difficulté pendant les travaux. Hélas, on ne peut pas faire des aménagements spécifiques pour une courte durée. Donc l'avantage, c'est que le nouvel aménagement prendra en compte toutes ces situations.
Donc, dans l'immédiat, pas de réponse, je porterai cette question.
Dans l'immédiat, malheureusement, je ne peux pas prévoir d'aménagement spécifique, non.
Ouais, j'en parlerai à la prochaine commission, à la prochaine réunion de chantier.
Bah, de toute façon, la prochaine réunion de chantier, malheureusement, c'est un. Malheureusement, ils se conforment à la réglementation, ils ne vont pas au-delà. Ils mettent déjà des passe-câbles, ils mettent ce qu'ils peuvent maintenant, voilà.
La question peut être posée, mais je pense que c'est difficilement réalisable le temps des travaux, effectivement. Il faut peut-être privilégier des parcours bis quand c'est possible, quoi. Bien, y a-t-il d'autres questions ? Non. Eh bien, écoute, merci Florence. Excuse-moi d'avoir passé le chapitre tout à l'heure. Et cette fois-ci, je donne bien la parole à Alexandra Leny pour les travaux.
Merci Madame la Maire. Donc, extension des réseaux d'éclairage. Donc là, c'est surtout des modifications par rapport aux subventions. Donc pour le terrain synthétique de Toulboubou, c'est une convention avec Morbihan Énergie qui annule et remplace une convention précédente. Donc il était prévu initialement dans la convention une tranche de financement inférieure et aujourd'hui elle est supérieure. Donc Morbihan Énergie propose de financer pour l'éclairage du terrain synthétique à hauteur de 23 940 € avec un détail dans le tableau présenté et nous vous proposons d'adopter cette nouvelle convention qui nous permet de toucher une subvention.
Il n'y a pas de questions ? Donc je vous soumets la délibération vote. Y a-t-il des votes contre ? Abstention. Donc la délibération est adoptée.
Donc, du fait du passage de la commission de sécurité, il nous a été demandé, bien que ce ne soit pas obligatoire, de poser des blocs autonomes de secours sur l'ensemble du terrain. Donc, ceci entraîne un coût supplémentaire de 6 800 euros et il y a une participation de Morbihan Énergie à hauteur de 2040 euros. Donc, pareil, la convention vous propose d'accepter cette subvention de 2040 euros pour les travaux complémentaires.
Pas de questions. Donc, y a-t-il des votes contre ? Abstention. Délibération adoptée. Merci.
Convention pour l'entretien et la réparation des mesures débit, pression, des bouches, poteaux et réserves incendies communaux. Donc, tous les ans, nous faisons procéder à la vérification de nos bornes incendies. Et donc là, il s'agit de la présentation de la convention. Donc, en application de l'article L2212-2 du Code général des collectivités territoriales, la responsabilité de la défense en eau contre l'incendie relève des pouvoirs de police du maire et les dépenses afférentes à ce service, notamment l'entretien des prises d'incendie, ne doivent pas être imputées à la comptabilité du service de distribution publique d'eau potable. Soucieuse de conserver les équipements de lutte contre l'incendie en bon état de fonctionnement, la commune a décidé de confier à la société STGS l'entretien des poteaux et bouches d'incendie communaux. Les poteaux et bouches d'incendie font partie du patrimoine communal au-delà du joint aval de la vanne d'arrêt situé immédiatement en amont de l'hydrant. Alors l'hydrant, c'est la borne incendie. De plus, la commune souhaite que la société effectue des mesures de pression et de débit pour évaluer la conformité des poteaux d'incendie au regard des circulaires interministérielles du 10 décembre 1951 et du 9 août 1967. La définition et les détails des modalités de cette mission figurent sur la convention jointe à la présente délibération. Nous vous proposons d'approuver et d'autoriser Madame la maire à signer.
Avez-vous des questions ? Donc je soumets au vote. Y a-t-il des votes contre ? Abstention. Donc la délibération est adoptée. Eh bien, merci Alexandra pour cette présentation. Une question ? Christophe. Ah oui, Christophe.
Oui, merci. Donc ça n'a pas trait directement à ce qui vient de nous être présenté, mais comme j'ai été interpellé par un de mes collègues de travail sur un point précis, je voulais l'évoquer. Alors je crois que d'ailleurs ça a déjà été évoqué lors du dernier conseil municipal, mais je n'y étais pas. Je veux parler du rond-point de Chérobic, du pont de Chérobic, qui n'est plus un rond-point, puisqu'il n'y en a plus depuis le passage du Tour de France fin juin. Donc j'ai été interpellé tout simplement par ce collègue de travail parce qu'il a eu un accident. Voilà, par quelqu'un qui lui a grillé la priorité. Donc quand est-ce que ce rond-point, enfin je ne sais pas, ce rond-point va-t-il être remis en service, va-t-il être matérialisé à nouveau ou pas ?
Alors là je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous puisque le rond-point est toujours matérialisé dans le sens, laissez-moi terminer, dans le sens où la signalétique verticale demeure, c'est-à-dire que tous les panneaux indiquant le rond-point sont toujours présents. Le seul élément qui ce jour n'est plus présent, c'est le cercle. Non, mais il n'en demeure pas moins qu'à partir du moment
où... C'est un carré actuellement. Hein.
Laissez-moi terminer, ce n'est pas un carré, c'est un enrobé. Donc, il s'avère que jusqu'à preuve du contraire, à partir du moment où votre signalétique verticale indique qu'il y a un panneau de céder le passage, même s'il n'y a plus le rond-point au sol, vous devez quand même céder le passage.
Donc, force est de constater que c'est plus difficile à respecter.
Non, force est de constater que certaines personnes continuent à avoir des incivilités. Par contre, il est bien prévu de le remettre en place. En revanche, il ne sera plus bombé parce que cela crée des problèmes non seulement pour le Tour de France, mais pour diverses manifestations et également pour des véhicules qui avaient des problèmes de rotation à cet endroit-là. Donc, il y a des devis qui ont été faits et les travaux vont être réalisés.
Et donc, ce sera rond.
Ce sera rond.
Merci.
Vous avez des ronds-points carrés. Hein, à Auray, vous avez un grand carré, quelquefois. Et dans, oui, oui, et dans d'autres villes. Bon, je crois que c'est une question d'habitude quand on a, enfin, moi, quand je passe par là, je fais comme s'il existait toujours. Maintenant, il est vrai que quand c'est matérialisé, nous sommes guidés. Bien, donc merci Alexandra pour toutes ces réponses. Alors, concernant la commission culture, donc l'adjoint est absent. Nous avions une délibération à vous proposer. C'est Michel Jarnigon qui va vous la présenter, puisqu'il s'agit aussi
Je vais essayer de faire aussi bien que Georges Guillot. Donc c'est une subvention. C'est une subvention en fait qui accompagne, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'exposition à la médiathèque au feu des pompiers avec des véhicules anciens des pompiers. En fait, c'est dans ce cadre-là. C'est une demande de subvention. Donc, dans le cadre des animations organisées par la médiathèque autour de l'exposition au feu des pompiers, l'ADSVAR, donc l'Association départementale de sauvegarde des véhicules anciens roulants des sapeurs-pompiers du Morbihan, a présenté au public le samedi 18 septembre devant l'espace Kénéré 5 véhicules anciens accompagnés pour cette occasion d'un équipage et de 2 sapeurs-pompiers par engin, et en fait pour leurs frais de déplacement, enfin au moins pour l'essence quoi. Nous vous proposons d'attribuer une subvention d'un montant de 50 euros à cette association pour participation aux frais de déplacement.
Bien, pas de questions. Donc, je vous soumets cette délibération au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Donc, la délibération est adoptée. Je vous remercie. Et nous en venons à la commission d'appel d'offres. Donc, je donne la parole à Véronique.
Merci, Christine. Donc, commission d'appel d'offres, il s'agit de celle qui s'est déroulée le 18 octobre dernier. Elle concerne le marché de la réhabilitation des halles théâtres, donc c'est un peu suite et fin. Je vous rappelle que 6 lots avaient déjà été attribués et rapportés sur le dernier conseil, et 4 lots avaient été déclarés infructueux ou à renégocier. Donc le résultat, après négociation, donc le lot numéro 7 sur les revêtements de sol, s'est attribué à la société Moisan Carrelage de Pontivy pour un montant de 42 000 euros. Au lieu de 44 137 à l'origine, donc petite négociation. Ensuite, le lot numéro 4 menuiserie intérieure a été attribué à la société Godard Menuiserie de Crédin pour un montant de 63 673 euros. Donc c'était une nouvelle offre et qui venait concurrencer une autre offre qui était à 142 000 euros. Donc elle était bienvenue. Ensuite, le numéro 5 cloison doublage, le Sourne Habitat pour un montant de 84 485 euros, puis le lot numéro 6 peinture nettoyage attribué à la société Leroux de Pontivy pour un montant de 75 478 euros. Donc pour rappel, enfin, le montant total de l'opération, donc tout lot confondu marché négocié, est de 1 011 582 euros hors taxe, alors que l'estimation était de 1 118 000 euros 430 euros. Donc, sauf surprise, on est sous l'estimation. Donc, je vous propose d'accepter les propositions de la commission d'achat, d'autoriser Madame la maire à signer les marchés à intervenir ainsi que les pièces annexes et d'inscrire au budget principal les crédits nécessaires à l'exécution de cette prestation.
Bien, pas de questions. Donc, Christophe. Oui, Christophe.
Oui. Bon, on voit que les montants de travaux ne sont pas du tout négligeables. Donc, plus d'un million d'euros hors taxes. Où en est-on de l'occupation de ce lieu par des commerces alimentaires, je crois, au rez-de-chaussée?
Oui, donc là-dessus, on a finalisé avec Madame le maire le cahier des charges qui va être diffusé ou qui a été diffusé, et donc les pétitionnaires seront auditionnés au printemps pour donc une occupation ensuite plusieurs mois après. Voilà.
C'est un appel à manifestation d'intérêt pour lequel un cahier des charges a été établi et qui donc va être lancé. Voilà.
Alors on a déjà des contacts, des gens qui, parce que faut savoir que spontanément à la ville, les porteurs de projets, comme on dit, viennent taper à la porte quand ils ont des projets commerciaux, et ça fait déjà plusieurs mois qu'on a cette idée en tête et que ce local est proposé. Donc il y a des gens qui sont venus spontanément, il y a des gens qu'on connaît dans d'autres réseaux à qui on en a déjà parlé, et cet appel à manifestation d'intérêt permettra d'avoir une diffusion très large. Voilà.
Il y a plusieurs orientations possibles.
Oui, il y a plusieurs opérations, orientations. Il y a l'orientation commerciale hein, qui reste la première orientation, celle que nous vous avions présentée, mais effectivement a été évoquée dans un second temps, peut-être une orientation culturelle. Donc nous restons quand même sur l'orientation commerciale en premier lieu.
Bon, je n'avais pas l'intention de poser cette question, mais du coup, je vais la poser. C'est vrai que s'il y a une autre orientation autre que commerciale et alimentaire, puisque c'était bien ça qui avait été présenté dans un premier temps, ça change un peu la donne, parce que l'affaire avait été vendue, et d'ailleurs, je n'y étais plus opposé, même si j'y avais été opposé au déplacement des commerçants des Halles dans un premier temps. Mais finalement, je n'y étais plus opposé si ce lieu-là retrouvait une vocation commerciale et notamment alimentaire. Je mets ça en parallèle avec aujourd'hui les trois seuls restants sur le marché du samedi. M'a-t-on dit, je n'y suis pas allé depuis quelque temps. On me dit qu'il n'y a plus que trois commerçants. Et voilà, je crains que le marché du samedi soit mal parti. Et on nous avait annoncé un poissonnier que je crois n'est pas encore arrivé.
Je laisse Paul répondre.
Alors, il y a plusieurs sujets dans ce que vous évoquez sur le bâtiment du Théâtre des Halles. En fait, donc, vous savez qu'il y a plusieurs parties. Donc, il y a le rez-de-chaussée, donc fléché en pépinière commerciale. Ensuite, il y a l'espace de travail partagé. Et puis, il y a la partie théâtre. La partie théâtre ne change pas. Et en fait, ce qui a été évoqué, surtout, je pense que c'est ça que voulait dire Madame Le Maire et comment dirais-je, Véronique Delmouny, il a été évoqué le fait d'avoir un porteur de projet qui puisse soit faire comme on avait dit le plus simplement, c'est-à-dire prendre le local commercial du bas, ça c'est l'idée de départ, mais aussi parce que ça existe maintenant, il y a des gens qui gèrent des tiers-lieux sous plusieurs formes, ça peut être associatif, d'entreprise, il y a plusieurs formes, quelqu'un qui puisse prendre à la fois la partie commerciale en bas l'espace de travail partagé, ou bien quelque chose d'encore plus global avec effectivement des liens culturels entre les deux premiers niveaux que j'ai cités et puis le haut qui est un théâtre, mais on reste sur une priorité, si vous voulez, largement commerciale. C'est ça qui est souhaité. Maintenant, si quelqu'un se présente avec un projet global, s'intéressant aux trois niveaux, on ne s'interdit pas de l'étudier grâce au cahier des charges qui a été défini. En fait, c'est ça qui est prévu. Et sur le marché du samedi, qui est le deuxième point que vous avez évoqué, donc ils étaient 7, je crois, samedi, moi j'y étais pas non plus. Pour en discuter notamment avec les historiques que vous avez cités, notamment avec Patricia, qui est la plus ancienne, qui était déjà sous les Halles auparavant, ils confirment que bon, l'emplacement est bon, ils sont contents d'être là. Maintenant, bon, il y a un problème, si vous voulez, il n'y a pas de problème forcément de demande, il y a un problème d'offre. On sait que c'est compliqué pour avoir du personnel, on a un maraîcher qui nous a lâché parce qu'il n'avait plus de personnel suffisant pour assurer toutes ces tournées de marché. Sur le poisson, on y travaille. Pour l'instant, on a éventuellement une piste qui n'est pas confirmée pour le moment. C'est compliqué. Même le poissonnier qu'on avait avant sous les Halles le samedi n'est plus là. Donc là, c'est aussi, il a ses propres raisons. Donc on travaille là-dessus. On essaye de mettre tout en place pour ce petit marché du samedi, le marché du château. Et voilà, ils étaient 7 et on continue là-dessus.
Pas d'autres questions? Eh bien, écoutez, je vous propose la délibération au vote. Y a-t-il des votes contre? Abstention. Donc, la délibération est adoptée. Je vous en remercie. Et nous arrivons à la lecture des décisions donc prises en application de l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales. Donc, vu l'article précité, la délibération du Conseil municipal du 16 juillet, les arrêtés du maire en date du 20 juillet 2020 et considérant que les décisions prises dans ce cadre doivent faire l'objet d'un rapport au Conseil municipal, donc nous vous proposons de prendre acte des décisions qui ont été prises entre le 16 septembre et le 13 octobre, pardon, soit les décisions numérotées DC 2021-11 à DC 2021-15, selon le tableau qui était annexé à cette délibération. Eh bien, nous en avons terminé. C'est un conseil municipal rapide. C'est vrai que c'est une date que nous avions dû ajouter pour la commission d'appel d'offres. Oui. Oui. Oui, oui. Je n'ai pas oublié. Oui, oui. On me rappelle que Mme Lemoyle a une question, mais je n'avais pas oublié qu'elle avait une question qu'elle pourra poser tout à l'heure. Donc, nous en venons justement aux questions diverses. Je vais commencer, avant de donner la parole à Mme Lemoyle, par répondre à une question qui m'avait été posée par Marie-Madeleine lors du dernier conseil et que j'avais reportée à cette séance, et qui était donc la fermeture des services au centre hospitalier de Pontivy. Donc, effectivement, alors, concernant le centre hospitalier. Donc il y avait cette question qui concernait la fermeture de certains services qui avaient été mentionnés par la presse, et puis depuis vous avez pu voir que nous nous sommes prononcés aussi sur l'application, ou plutôt une demande de report d'application de la loi RIS à ce sujet. Donc j'ai rencontré les chefs de file de la minorité vendredi dernier, et nous avons évoqué ces sujets. Mais je réponds donc quand même pour informer le conseil municipal qu'effectivement nous avons eu à l'hôpital des fermetures temporaires de services qui sont liées à l'absence de médecins dans ces services. Pas seulement des médecins, mais parfois aussi l'absence de profession paramédicale. C'est une vraie difficulté quelquefois d'avoir les professionnels. Et vous comprenez bien que les services ne peuvent pas être maintenus ouverts lorsque les professionnels de santé sont absents. Donc la plupart de ces services devraient retrouver leur activité très, très prochainement, au début du mois de novembre. Concernant la loi RIS, donc vous savez, c'est cette loi qui plafonne la rémunération de l'intérim médical. Eh bien, ces difficultés de recrutement au centre hospitalier de Pontivy, nous ne sommes pas le seul dans le cas. Vous avez pu lire la presse que bien d'autres hôpitaux sont concernés par ces mêmes problématiques. Ces absences font que l'hôpital recourt donc à des médecins intérimaires ou à des remplaçants. Et donc le plafonnement de la rémunération qui était applicable 6 mois après la parution de la loi, donc avril, juste à partir du 27 ou du 28 octobre, a fait que les médecins concernés ont démissionné de leur poste, refusant l'application de ce plafonnement, ce qui mettait donc en péril certains services, puisque nous étions confrontés au même problème de l'absence de médecins. Donc j'avais réuni mes collègues maires, membres du groupement hospitalier de territoire, et vous avez pu voir dans la presse que nous avons rédigé un communiqué pour demander notamment donc une prise en compte de nos difficultés, enfin pour tous ces hôpitaux qui sont touchés par l'application de cette loi, et puis et nous demandions donc à l'État et à l'ARS un assouplissement de la législation eu égard donc justement au contexte sanitaire et puis aux spécificités donc de notre hôpital. Donc le ministre a décidé donc un report de cette loi, donc pour l'instant. Donc les inquiétudes que nous avions sont provisoirement levées, mais il est vrai que ce recours aux intérimaires pose parfois des problèmes, et notamment l'application de cette loi. Voilà ce que je devais vous dire. Donc nous avons voulu effectivement rappeler tout l'attachement que nous avions à notre centre hospitalier, à notre groupement hospitalier du territoire, et aussi à notre territoire de santé, tout en maintenant bien entendu les coopérations que nous avons avec les centres hospitaliers de Lorient, mais aussi de Vannes, de Saint-Brieuc et le CHU de Rennes, avec lesquels le CHCB travaille. Et puis nous tenions aussi à redire toute notre confiance à la direction, à la communauté médicale, médicale ainsi que toutes les équipes qui sont à pied d'œuvre pour continuer à faire fonctionner l'ensemble des services hospitaliers sur tous les sites de Kerio, Pontivy, Oudéac, Plémet et Guémené-sur-Scorp, puisque qui est intégré à notre groupement hospitalier. Donc voilà ce que je voulais répondre ensuite à la question de Marie-Madeleine. Et donc j'avais deux autres questions, dont une de Marie-Christine, que j'invite à nous poser. Si elle peut, je pense que... En espérant que la technique fonctionne.
Bonsoir, vous m'entendez ?
Oui, bonsoir Marie-Christine.
Oui, bonsoir. Bon, ben, écoutez, vous comprendrez un peu ma frustration parce que j'ai dû suivre le conseil municipal via Facebook, alors qu'on avait pris toutes les dispositions nécessaires pour que je puisse le suivre normalement et participer. Donc j'avais pas mal de questions à poser à mes collègues, à mes collègues de la majorité par rapport à des décisions qui ont été prises ce soir, mais c'est pas grave, on va pas revenir en arrière. Je suis d'autant plus étonnée que il me semblait qu'on s'était doté de nouveaux matériels informatiques qui nous permettraient éventuellement de réaliser ce type de prouesse. Il va falloir qu'on regarde ça de près, me semble-t-il. Je vais revenir à la question, puisque voilà, c'est la seule participation que je pourrais faire ce soir. Donc, je venais par la présente question relayer des craintes des habitants des Hauts-Kérostins, qui ont appris que la société Rouenel, qui est donc située route de Mur de Bretagne, allait s'étendre jusqu'à la ferme Petit Corps. Et donc, en effet, il se dit qu'une plateforme de stockage, de distribution à l'échelle régionale va s'implanter là, et que la rue d'Anjou, immédiatement contiguë aux habitations, qui aujourd'hui est désaffectée et non ouverte à la circulation, va servir pour le passage, on imagine, de nombreux camions avec des nuisances non mesurables à présent, quoi, car aucune communication n'a été effectuée par la ville ni par lettre de communication. Donc la crainte est d'autant plus grande que ces nuisances peuvent avoir lieu nuit et jour à cause du transport de gros matériel. Donc un panneau réglementaire est bien affiché à l'entrée du chantier, mais il est complètement illisible. Et donc la question était, Madame la maire, de savoir qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet de cet éventuel projet. Nous souhaitons avoir quelques explications, en sachant que vous êtes donc également première vice-présidente en charge du développement économique auprès de Pontivy Communauté. Merci par avance pour votre réponse.
Bien, c'est une rumeur qui avait déjà couru il y a à peu près un an. Nous avions rencontré à l'époque les responsables de la société Rouenel, mais sur lesquels nous avions plutôt parlé urbanisme. Nous étions encore dans le cadre du projet de plan local d'urbanisme intercommunal. Donc, un projet d'agrandissement de la société Rouenel au BAD a bien été déposé au service d'urbanisme en août dernier. Il est toujours à l'instruction puisqu'une demande de pièces complémentaires a été formulée. Le dossier a bien été complété, mais donc il reste en instruction. Ce projet donc consiste en la construction d'un bâtiment de stockage de 6500 m² qui sera implanté à l'écart du bâtiment principal sur la droite du site. Et compte tenu, je précise que compte tenu de la forte pente du terrain, le bâtiment se trouvera partiellement enterré visuellement vis-à-vis de la route. C'est ce qui apparaît sur la photo. Sur le dossier, et il y aura aussi une distance, puisqu'il y a une maison à proximité, une distance d'au moins 10 mètres par rapport à cette maison voisine. Et le permis précise que les accès ne sont pas modifiés. Je m'en suis à nouveau assurée suite à votre question auprès du directeur général de la société Rouenel, qui m'a bien confirmé que le permis le mentionnait et que l'accès se ferait uniquement par la route principale et en aucun cas par l'arrière du bâtiment. Donc voilà, la réponse que je pouvais vous rapporter. Je vous rappelle que la société Rouennelle se trouve sur cette zone d'activité du port Rousse depuis de nombreuses années et que nous ne pouvons que nous féliciter de cette nouvelle implantation qui est synonyme d'emploi et de bonne santé aussi de l'entreprise. Une entreprise, comme je vous le disais, que nous avions rencontrée il y a un an, justement pour un maintien de sa parcelle en état de constructibilité compte tenu de ce projet qu'ils avaient à l'époque. Voilà, Madame Marie-Christine.
Entendu, c'est noté.
Bien, nous pouvons...
Nous en reparlerons peut-être, sans doute.
Oui, à défaut de... Pardon ?
Je dis que nous en reparlerons sans doute à une prochaine occasion.
Oui, s'il y a lieu.
J'ai bien pris note, effectivement, des réponses que vous nous avez apportées. Je vous en remercie.
Bien, mais voyez que nous pouvons échanger quand même. Maintenant, peut-être que le jour où nous aurons la fibre, nous n'aurons pas justement cette difficulté que nous avons pu rencontrer ce soir pour le vote électronique notamment. Eh bien, nous avons une autre question qui est celle de Jean-Jacques.
Bon, merci Madame le maire de nous donner la parole pour poser notre question, qui est « Quelle place pour l'expression des minorités dans le bulletin municipal ?» Cette question découle de deux constats. Le premier constat tient au fait qu'un membre de l'une des minorités de ce conseil a fait sécession de son groupe dernièrement et a donc maintenant le droit de s'exprimer en son nom dans notre bulletin municipal. Le deuxième constat est que jusqu'à présent, au-delà du fait que l'expression des minorités soit contrainte à 2900 caractères, elle est publiée sous un format qui la rend illisible pour la plupart des citoyens de cette ville. En effet, réduire la taille des caractères au plus petit possible et enchaîner les caractères sans les séparer, les paragraphes sans les séparer, n'est pas fait pour en faciliter la lecture. Nous comprenons que nos textes, pour peu qu'ils soient dissonants, ne fassent pas toujours plaisir. Ils sont cependant l'expression de la démocratie et doivent être respectés comme tels. Avec l'avènement d'une troisième minorité, allez-vous, Madame le maire, réduire encore le nombre de ou la taille des caractères rendant définitivement illisibles nos expressions. Je vous remercie de votre réponse.
Bien, je vous rappelle que le règlement intérieur du Conseil municipal, dans son article 25, bulletin d'information générale, dit que l'espace mis à la disposition des conseillers n'appartenant pas à la majorité dans le journal municipal est fixé à une page. Donc le nombre de caractères est effectivement, comme vous l'avez souligné, fixé d'un commun accord et de manière égale entre chaque groupe d'opposition. Et donc cet espace est divisé de manière égale. Donc nous nous étions donc entendus en début de mandat sur le partage de la tribune d'expression libre à 2900 caractères. Vous l'avez dit, espace compris pour chaque groupe. Donc aujourd'hui, Madame Lemoelle ne nous a pas demandé à pouvoir s'exprimer, mais il est vrai que sa demande viendra sans doute. Donc, puisqu'elle a souhaité se séparer de la liste de Madame Doré-Lucas, donc le nombre de caractères devra être abaissé dans ce cas-là, si vous êtes trois, à 1800 caractères, espace compris, afin de laisser la place aux trois groupes d'élus de l'opposition et de tenir sur cette page. Je vous rappelle qu'à la fin du mandat précédent, nous sommes allés jusqu'à 5 tribunes, avec chacune 1500 caractères, espace compris. Donc, voilà. Alors, pour ce qui est de la police de caractères et de la mise en page des tribunes, c'est la même police depuis 2017. Donc voilà, je disais que nous pouvions peut-être réduire la marge à droite éventuellement, mais ça semble peut-être... Non, il me semble que c'est à droite où nous avons le nom des groupes. Peut-être que cette marge-là pouvait... Ah, oui, je...
Alors, puisque je vais prendre la parole, si tu veux bien, puisque j'ai posé la question. Madame le maire, nous entendons vos arguments. Mais permettez-nous de vous encourager à ne pas rester sur un discours conservateur et à coller aux valeurs du parti dont vous vous réclamez, le MoDem, qui, comme son nom l'indique, engage une démarche, un mouvement vers davantage de démocratie et donc vers un respect de l'expression plurielle qui en fait la substance. Donc je vous engage à peut-être modifier ce règlement intérieur pour que cette expression soit plus lisible et en cohérence avec l'ensemble des documents qui sont présentés dans, dans notre bulletin municipal. Je vous remercie.
Je prends acte. Oui, Christophe.
Oui, bon, au-delà des chiffres et des quantités, je ne peux que souscrire à la remarque qui vient d'être faite par Jean-Jacques Mercer sur la qualité de la lisibilité de cette page. Si on compare cette dernière page avec le reste du pontivien, du bulletin, bon, c'est sans commune mesure, c'est-à-dire que la typographie utilisée est extrêmement fine et quasiment illisible. Tout à l'heure, on a parlé d'accessibilité et de handicap. Bon, je défie quiconque, parce que déjà nous, qui avons une vision relativement correct, voilà, on a du mal. Alors imaginez ceux qui ont une vision difficile. C'est proprement illisible. Donc moi, je ne suis pas sur le terrain de la quantité du nombre, mais je suis sur le terrain de la qualité. Aujourd'hui, il est simple, extrêmement simple, de trouver une police de caractère qui sera adéquate et effectivement de séparer les paragraphes. Tout ça doit être en capacité d'être fait.
Marie-Madeleine.
Oui, je souscris à ce qui vient d'être dit. La tribune de l'opposition, de la minorité, c'est une tribune qui doit donner envie d'être lue. Et ça participe des droits de la minorité. Ça participe de la démocratie locale. En réduisant les marges, en compressant le texte, ça ne donne pas envie. Et il faut penser, effectivement, je rejoins ce que vient de dire Christophe, il faut penser aux personnes qui ont des difficultés de vue, en fait. Donc, au titre de la démocratie locale, je souscris ce que vient de dire, par rapport à ce que vient de dire M. Mercer. Effectivement, il faut nous donner plus de place et revoir le règlement intérieur, c'est pas difficile.
Bien. J'entends ce que vous avez... Oui, Jean-Jacques ?
Je peux me permettre d'ajouter quelque chose. J'ai une petite expérience de 15 ans de rédaction en chef d'un bulletin municipal. En termes de lisibilité, je pense que c'est difficilement comparable. Donc je pense qu'avec, en modifiant la maquette de cette page-là, et en modifiant la taille de la police de caractère, on peut conserver le volume que l'on a aujourd'hui en améliorant la visibilité. Voilà.
Bien, donc j'entends ce que vous avez dit, nous aurons l'occasion d'en reparler. Mais c'est vrai que cette tribune n'a jamais été modifiée, même à l'époque où j'étais moi-même dans la minorité, elle était à peu près de la même taille. Je vous rappelle quand même que nous n'utilisons pas notre droit à la tribune comme le font dans beaucoup de villes les équipes majoritaires aussi. Mais voilà. Bien, est-ce que vous avez d'autres questions ? Il n'y a pas d'autres questions. Je vais peut-être revenir sur le calendrier. Donc, notre prochain conseil municipal sera le 6 décembre prochain. Et nous vous fournirons prochainement aussi le calendrier pour l'année 2022 pour que vous puissiez donc le noter sur votre agenda. Nous avons pour la période du 28 octobre au 7 novembre la manifestation Equipondi, donc qui ne s'est pas déroulé l'année dernière, mais qui revient cette année, et nous en sommes heureux, tout comme au lavage que nous avons eu tout dernièrement. Le 4 novembre, au Palais des Congrès, à 20h, nous avons la diffusion du film documentaire « Soldat Louis, fils de l'Orient ». Le 11 novembre, nos cérémonies commémoratives, donc à 10h15 au Monument aux Morts. Les 17-18 novembre, nous avons la quinzaine américaine et anglophone. Donc vous aurez sans doute avec des concerts qui seront proposés notamment. Mais c'est plus en direction des scolaires. Je regarde mon adjoint à l'éducation. Mais il est bon que... Oui, Jean-Pierre.
Les concerts du soir sont ouverts ils sont gratuits.
Donc voilà, je vous invite à y participer. Le 20 novembre, donc nous avons la visite du quartier de Quérentré. Les 25 et 26 novembre, il y a des concerts exceptionnels de Laurent Voulzy à l'église Saint-Joseph. Et le 5 décembre, à nouveau, une cérémonie commémorative à midi. Voilà tout ce qui est prévu, enfin tout ce qui m'a été noté pour porter à votre information ce soir et d'ici le conseil municipal du 6 décembre. Oui, Jean-Pierre voulait nous dire quelque chose.
Je voulais vous dire que depuis aujourd'hui, dans le hall du Palais des Congrès, il y a une exposition qui a été faite par une association qui est en charge de la prévention des violences faites aux femmes. Donc c'est une exposition qui est réalisée dans le cadre du contrat local de prévention des violences faites aux femmes, administré par Paul et Marie-Vonne aussi, et également dans le cadre de l'éducation à la citoyenneté. Donc c'est ouvert au grand public. Et n'hésitez pas à aller la voir et en parler autour de vous. Elle est très très intéressante et très très bien faite.
Merci Jean-Pierre. Eh bien, je vous remercie d'avoir participé à cette séance de conseil municipal et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Oui, ah oui, n'oubliez pas avant de partir, merci Christophe de me le rappeler, de signer la feuille de présence.